Vous écoutez, on lit pour vous.
Nous ne sommes pas grand-chose. Et c'est tant mieux. Un texte de Marissa Grosguet, paru le 28 décembre 2025 dans La Presse. Le fait d'envisager notre propre vie en constatant notre microscopique place dans l'univers a le potentiel d'atténuer nos maux en leur attribuant leur réelle importance, tout à fait négligeable, en perspective. Avez-vous déjà visionné l'une de ces vidéos expliquant l'étendue incommensurable du cosmos? J'en ai vu une récemment sur TikTok. Le physicien et professeur québécois Stéphane Durand illustrait l'immensité de notre univers en exposant que la lumière file à la vitesse de 300 000 km/s. Ainsi, la lumière de l'objet le plus proche de nous, celle de la Lune, met une seconde à nous arriver. Celle du Soleil, 8 minutes. Celle de Pluton, de 4 à 6 heures. Et ainsi de suite, jusqu'à la prochaine étoile, après le vide sidéral qui entoure notre système polaire, Proxima du Centaure, dont la lumière met 4 ans à se rendre à nous. La lumière d'Andromède, la galaxie la plus proche de la nôtre, met 2 millions d'années à nous atteindre, explique le scientifique. La courte vidéo, extraite de l'émission balado MAKR, se termine ainsi. On comprend qu'on peut continuer longtemps encore à situer l'immensité du cosmos avec des chiffres faramineux et intangibles. Cette vidéo TikTok m'est restée dans la tête. Contrairement aux vidéos de bébés et de chiots que je consomme aussi avidement. Je me suis mise à réfléchir à ce que mon existence, en tant que tout petit humain sur une toute petite planète, signifie vraiment dans cette immensité. Surtout, quelle est l'importance de mes soucis futiles du quotidien quand je pense à l'histoire de l'humanité? De la Terre, de notre galaxie et de l'univers. Isabelle Chouinard, professeure de philosophie à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, m'a parlé de l'exercice du regard d'en haut que pratiquaient les anciens philosophes. Plusieurs textes anciens décrivent cet exercice par lequel un philosophe quitte son point de vue personnel pour regarder le monde humain à partir du ciel ou de l'espace, explique-t-elle. Cela rend évidente la futilité des objets convoités par les humains. La perspective cosmique adoptée dans le regard d'en haut établit une distance psychologique suffisante pour relativiser la valeur que l'on accorde au pouvoir, à la richesse, à la gloire, aux objets. Cette valeur est le fait de conventions humaines et se dissipe quand on observe. Dans la mesure où l'on estime que l'univers a un sens, comme c'était le cas pour Platon ou les stoïciens, se concevoir comme une petite partie de l'univers peut calmer les anxiétés, indique Isabelle Chouinard. On peut se dire qu'on a confiance en l'univers et que rien n'arrive pour rien. Cela permet de passer à travers des épreuves de la vie plus facilement. Ainsi, mes préoccupations, qui font obstacle au bonheur véritable, peuvent être repoussées. Je ne suis pas le centre de l'univers, encore moins le centre de l'attention des gens. Personne ne me juge. Tant que je fais le bien, mon incidence dans l'univers n'est pas bien importante, et c'est tant mieux. Je peux vivre ma vie, y trouver le bonheur, sans la pression que j'ai tendance à conférer à mon quotidien. le bonheur et le sens de l'univers. Bien sûr, on doit s'imposer des limites dans cette perception de soi pour ne pas sombrer dans un extrême dommageable, soit une impression qu'il ne sert à rien de vivre, puisque l'on n'est qu'une poussière dans l'univers. Si on minimise trop notre propre importance, dit Madame Chouinard, on peut tomber dans la négligence de soi. Le problème ici serait une perte de repère entraînée par une espèce de vertige cosmique. Selon que l'on croit que l'univers a un sens ou non, on peut traiter différemment ce vertige, dit la professeure. Pour Platon et les stoïciens, c'est l'univers qui confère un sens à la vie humaine, et ce sens requiert que nous prenions soin de nous, et donc que nous nous accordions un minimum d'importance. Pour Épicure, même si l'univers n'a pas de sens, la vie humaine en a un, que l'on peut trouver en nous-mêmes, poursuit Isabelle Chouinard. Nos sensations nous poussent naturellement vers le plaisir. Une vie heureuse sera donc une vie agréable. Nous n'avons peut-être aucune importance dans l'univers, mais cela ne veut pas dire que notre quête du bonheur est vaine. Il est ainsi tout aussi bon de nous rappeler notre insignifiance pour amoindrir nos peines que de profiter de cette chance que l'on a d'être l'une de ces poussières qui forment l'univers pour amplifier nos bonheurs. À méditer, la prochaine fois que vous contemplerez un ciel étoilé. C'était « Nous ne sommes pas grand-chose, et c'est tant mieux ». Un texte de Marissa Grosguet, paru le 28 décembre 2025 dans La Presse.
Trucage de photos par l'administration Trump. Un mensonge à faire pleurer. C'est le titre d'une chronique signée Philippe Mercure et publiée dans La Presse du 29 janvier 2026. Il y a mille raisons de pleurer face aux agissements de l'administration américaine depuis la deuxième élection de Donald Trump. Mais certaines larmes commandent la prudence. Il y a quelques jours, le New York Times a montré que la Maison-Blanche avait trafiqué la photo d'un événement à l'aide de l'intelligence artificielle et l'avait diffusée sur les réseaux sociaux. Cette falsification, vous le verrez, soulève une tonne de questions. Donc, jeudi dernier, sur X, la Maison-Blanche a publié la photo d'une militante, Nekima Levi Armstrong, lors de son arrestation en Minneapolis, dans la foulée des tumultes provoqués par les agents du Service de l'immigration et des douanes, l'ICE. On la voit en larmes, le visage défait. Le hic, le même jour, toujours sur X, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Christine Noem, a publié la même photo. Tout est pareil, la position des protagonistes, celle des objets. Mais cette fois, le visage de Mme Levi Armstrong est impassible. Grâce à des outils spécialisés, le New York Times a déduit que la photo sur laquelle on voit la prévenue en larmes avait été trafiquée par l'intelligence artificielle. La Maison-Blanche a confirmé l'altération à un reporter de CNN parlant d'un « meme », comme ces images ou vidéos virales humoristiques qui circulent sur l'Internet. Citation « L'application de la loi se poursuivra. Les mêmes continueront. » Fin de citation affirmée la Maison-Blanche dans une autre déclaration stupéfiante. La nouvelle soulève un premier choc, celui de voir un gouvernement manipuler ainsi l'information. À l'ère où l'on peine déjà à discerner le vrai du faux, les conséquences d'un tel acte sont immenses. Mais un deuxième choc survient lorsqu'on pense à ce que l'administration Trump a cherché à montrer avec ce traficotage. Elle a voulu faire croire qu'elle fait pleurer ses propres citoyens lorsqu'elle les arrête. À quoi joue la Maison-Blanche? C'est ce que j'ai tenté d'éclaircir en parlant à des experts. Citation. Le but probable est de dénigrer et d'humilier l'adversaire. Fin de citation, répond David Colomb, expert en propagande et en communication et professeur agrégé d'histoire à l'Institut d'études politiques de Paris. Simon Thibault, professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, confirme que ce cas représente un exemple de propagande, l'un de ses champs d'expertise. Citation. On est en présence d'une administration qui cherche à communiquer des messages pour convaincre, en suscitant des émotions, lesquelles vont varier selon les publics visés, dit-il, fin de citation. Quant à savoir quel message exact veut véhiculer l'administration Trump en montrant une manifestante en larmes, l'expert ne peut que conjecturer. Citation. Préfère-t-on montrer Nekima Levi Armstrong en pleurs et en détresse plutôt qu'en maîtrise d'elle-même? Cherche-t-on à humilier? Veut-on susciter des émotions, la colère et la peur chez certains, la joie ou le sentiment de sécurité chez d'autres par cette image trafiquée? Fin de citation. M. Thibault rappelle que les stratégies de ce genre sont vieilles comme le monde. Citation. On peut penser aux illustrations ridiculisant ou humiliant la papauté diffusées par Martin Luther et les partisans de la réforme protestante, dit-il, fin de citation. Cara Finnegan, professeure au département de communication de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, est une spécialiste de l'utilisation de la photographie à des fins de communication publique. Elle note que le président Donald Trump utilise énormément la photo, mais aussi les vidéos et les mèmes. Citation, il est très investi dans sa propre image et consacre beaucoup de temps et d'énergie à construire sa propre image politique à l'aide de stratégies visuelles, observe-t-elle, fin de citation. L'experte en a long à dire sur le cas de Nekima Levi Armstrong. Elle soulève d'abord le fait qu'en plus de l'ajout de fausses larmes, la peau de la militante a été assombrie sur la photo truquée. Le magazine Time avait fait la même chose avec une photo de l'ex-footballeur O.J. Simpson lors de son arrestation pour meurtre en 1994. Citation. C'est du racisme, conclut la spécialiste. Et dans le cas de Nekima Levi Armstrong, il y a aussi du sexisme. Fin de citation. Autre citation. Les femmes noires sont un groupe que Trump attaque régulièrement, en particulier les femmes noires actives en politique ou membres du Congrès. Il se moque d'elles, remet en cause leur légitimité. Fin de citation. Les fausses larmes, selon Mme Finnegan, servent à montrer, citation, que les tactiques de peur fonctionnent et que les gens devraient avoir peur. Il y a un désir de montrer qu'on ne fait pas qu'arrêter les gens, mais qu'on les brise émotionnellement, analyse-t-elle, fin de citation. Cara Finnegan tient à souligner que la femme qui a été arrêtée à Minneapolis est une avocate connue, qui a dirigé plusieurs organisations de droit civique, a organisé de nombreuses manifestations et a été arrêté à plusieurs reprises. Citation. Ce n'est justement pas une personne qui va être traumatisée et pleurer parce qu'elle se fait arrêter, observe l'experte. Mais il y a cette façon de penser qui dit « Nous allons paraître plus forts si l'autre côté paraît faible. » Fin de citation. Pour Simon Thibault de l'Université de Montréal, le pire est sans doute la façon dont la Maison-Blanche a expliqué l'altération de la photo. Citation. Le plus troublant dans cette mise en scène, c'est qu'on semble utiliser le prétexte de l'humour, soit les mêmes, pour relativiser le fait d'altérer une image avec l'aide de l'intelligence artificielle. Fait-il remarquer. Fin de citation. Cara Finnegan a les mêmes observations. Ils altèrent la photo et ils appellent ça un mème. Ça soulève plusieurs questions à propos de ce qui constitue un mème et ce qui constitue de l'information. on vient brouiller encore plus les frontières. » Fin de citation. Dans ce cas précis, le poteau rose a été révélé parce que les deux photos, la vraie et la fausse, ont été publiées le même jour sur deux comptes de l'administration Trump. D'autres photos ont-elles été altérées sans qu'on s'en rende compte? Citation, je l'ignore, répond Kara Fingan. Mais le fait que vous posiez la question montre à quel point la confiance envers les institutions est atteinte. Auparavant, on présumait que ce qu'on voyait était vrai. Il faut maintenant renverser cette proposition. Fin de citation. Il est ironique et tragique de constater que Trump, qui a toujours alimenté la méfiance envers les institutions, est en train de se donner lui-même raison en mimant la crédibilité de ces institutions. On peut se consoler en pensant que la Maison-Blanche semble croire que les larmes sont un signe de faiblesse. Or, le mensonge et la manipulation sont sans doute bien plus révélateurs à cet égard. Fin de cette chronique de Philippe Mercure titrée « Un mensonge à faire pleurer » publié dans la presse du 29 janvier 2026.
Les micro-organismes des glaces accélèrent le réchauffement climatique. Un texte de Pauline Gravel, paru le 3 février 2026 dans Le Devoir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les glaces des zones polaires hébergent des communautés de micro-organismes qui, à mesure que ces glaces fondent, s'activent et libèrent des gaz à effet de serre, GES, susceptibles d'accélérer le réchauffement climatique. Dans une étude publiée dans Nature Reviews Microbiology, des chercheurs de l'Université McGill démontrent que ces micro-organismes constituent ainsi un facteur qu'il serait important de considérer dans les modélisations de l'évolution du climat. On retrouve tous les types de micro-organismes du vivant dans les glaces des régions polaires, des virus, des bactéries, des archées, des unicellulaires sans noyau semblables aux bactéries, et des micro-eucaryotes qui possèdent un noyau renfermant leur ADN. Dans les glaciers, beaucoup de ces micro-organismes sont en dormance. Dans les glaces de mer ou les banquises, selon leur épaisseur, on trouve des cellules en dormance, mais certains micro-eucaryotes, tels que les algues de glace, demeurent actifs, notamment dans les couches inférieures, plus particulièrement à l'interface entre la glace et l'eau sur laquelle elles flottent, ainsi que dans les canaux de saumure à l'intérieur de la glace qui contiennent une eau d'une salinité supérieure à celle de l'eau de mer. Dans le pergélisol, on trouve surtout des bactéries et des archées qui sont dans un état de latence, décrit Nastasia Freria, postdoctorante en microbiologie polaire de l'Université McGill, dans le laboratoire du professeur Lyle White. À cause du réchauffement climatique en cours, on a cette fonte de la glace, que ce soit sur les glaciers, les pergélisols ou la glace de mer. Les micro-organismes qui étaient en dormance dans cette glace vont alors être réveillés. De plus, davantage de nutriments deviennent disponibles pour ces micro-organismes avec le ruissellement de l'eau provenant de la fonte de la glace sur le pergélisol. Et cette eau liquide permet à son tour un plus grand accès à l'oxygène pour les micro-organismes qui en ont besoin. Compte tenu de ces différents apports en nutriments et en oxygène, tous ces micro-organismes qui se réveillent voient leur activité s'accroître. Plus la température s'élève, plus leur métabolisme sera rapide. Or, quand leur métabolisme est en action, cela produit du gaz carbonique, CO2, et du méthane. Surtout du méthane par les archées présentes dans le pergélisol et du CO2 par les bactéries, explique Mme Freria. L'augmentation de l'activité des micro-organismes génère aussi une production accrue de nutriments qui découle de la dégradation des micro-organismes qui meurent. Tout va augmenter. L'activité des micro-organismes, la production de nutriments, ainsi que celle de gaz à effet de serre. Une partie du CO2 produit par certains micro-organismes pourra être utilisée par le phytoplancton, comme les micro-algues, pour faire la photosynthèse et produire de l'oxygène. Mais l'abondance de nutriments dans l'eau pourra entraîner une trop grande prolifération de ces algues qui, en bout de ligne, réduira l'échange des gaz entre l'atmosphère et l'eau et fera en sorte qu'il y aura moins d'oxygène dans l'eau. Les organismes qui ont besoin d'oxygène mourront par asphyxie, ajoute la chercheuse. Tous ces changements induits par le dégel des glaces auront des répercussions majeures sur le cycle mondial du carbone, affirme Scott Sugden, co-auteur de l'étude et doctorant au laboratoire de microbiologie polaire de l'Université McGill. Mercure et méthane. Les chercheurs font également remarquer que le dégel des sols, qui risque de s'accentuer sous l'influence d'une activité microbienne accrue, aura aussi pour conséquence de libérer les contaminants, notamment le mercure et le méthane, qui étaient emprisonnés dans le pergélisol. Depuis la dernière ère glaciaire, le mercure présent naturellement dans l'atmosphère et qui est issu notamment des éruptions volcaniques, s'est déposé sur l'Arctique. Les plantes l'ont absorbé durant leur croissance, mais il s'est retrouvé piégé dans la glace au sein de cette matière organique végétale. Le pergélisol représente ainsi un gigantesque réservoir de stockage depuis des millénaires. Lorsque le sol dégèle, cette matière organique commence à se décomposer sous l'action de l'eau et des microbes, relâchant ainsi le mercure qu'elle contenait, explique Nastasia Freria. Une fois libéré dans l'eau de ruissellement, ce mercure se transforme en méthylmercure, une substance neurotoxique qui s'accumule dans les organismes qui l'absorbent. Sa concentration s'amplifie à chaque niveau de la chaîne alimentaire. Il finit par être ingéré par les humains lorsqu'ils consomment du poisson, poursuit la chercheuse. Les auteurs de l'article soulignent qu'il ne faudrait pas négliger l'impact que peuvent avoir ces populations microbiennes présentes dans la glace dans les modèles de projection climatique, étant donné qu'un contexte de réchauffement climatique réactive ces micro-organismes qui vont alors accélérer la libération de gaz à effet de serre. Il est vrai que la microbiologie polaire est une science assez récente. Les chercheurs ne disposent de données sur la diversité microbienne dans ces contrées glacées que depuis une vingtaine d'années, soit depuis qu'ils disposent des techniques de séquençage de l'ADN, souligne la microbiologiste polaire. De plus, la difficulté d'accès aux régions arctiques et antarctiques, ou même alpines, ainsi que le manque de financement à long terme, a limité la prise de données. Or, pour créer des modèles de prédiction, il faut prendre en compte beaucoup de données biologiques, chimiques et physiques. Il faut avoir une bonne connaissance des conditions dans lesquelles ces micro-organismes survivent. Il faut connaître les tendances de ces micro-organismes par saison et par année, à savoir par exemple s'ils ne sont actifs que l'été et dorment l'hiver, souligne Mme Freria. Et pour connaître ces tendances, il faut poursuivre la prise de données sur de longues périodes. Un financement à long terme est donc nécessaire. C'était « Les micro-organismes des glaces accélèrent le réchauffement climatique », un texte de Pauline Gravel, paru le 3 février 2026 dans Le Devoir.
Quand même le soleil est à vendre. Un texte de Philippe Mercure, paru le 14 novembre 2025 dans La Presse. Du soleil en pleine nuit. C'est ce que promet l'entreprise californienne Reflect Orbital, qui compte lancer d'immenses miroirs en orbite afin de réfléchir la lumière du soleil vers la Terre. Oui, vous avez bien lu. Le slogan de l'entreprise « Du soleil à la demande » vise à séduire les opérateurs de panneaux solaires, les agriculteurs, les militaires et quiconque est prêt à payer pour jouir de lumière naturelle après le coucher du soleil. Ce projet délirant suscite des tonnes de questions, dont plusieurs fondamentales, du genre « À qui appartient la nuit ? Et a-t-on le droit de la bousiller ?» C'est Nathalie Ouellette, directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont Mégantic, qui m'a alertée à ce sujet. Elle cherche à créer une mobilisation rapide. Reflect Orbital a déposé une demande auprès de la Federal Communications Commission, FCC, pour envoyer un premier satellite en orbite dès le milieu de l'année 2026. « On veut sonner l'alarme au Canada », dit Nathalie Ouellette, parce que malgré le fait que ce soit une compagnie américaine qui fasse une demande auprès d'une agence américaine, ça va quand même dans l'espace au-dessus de la tête de tout le monde. Ça nous affecterait donc aussi au Canada. Dérèglement du rythme circadien des humains, des animaux et des plantes. Encombrement des orbites de la Terre, déjà surchargées. Éclat de lumière qui pourrait nuire aux pilotes et aux conducteurs. La Société canadienne d'astronomie a rédigé une lettre qui fait part d'une longue liste de préoccupations. C'est sans compter les impacts extrêmement négatifs pour l'astronomie, comme le craignent les astronomes. Ceux-ci sont déjà échaudés par les milliers de satellites Starlink envoyés en orbite par l'entreprise SpaceX d'Elon Musk. Ils voient passer ces engins devant leur télescope et s'arrachent les cheveux. C'est un problème omniprésent, commente Nathalie Ouellette, qui affirme que jusqu'à 30 % des images de certains télescopes contiennent des interférences dues à Starlink. Elle fait remarquer que les satellites Starlink reflètent la lumière de manière accidentelle. Penser que les miroirs de Reflect Orbital le feraient de façon délibérée la fait bondir. Et sur Terre, ça aurait l'air de quoi? Les scientifiques estiment que les miroirs célestes pourraient nous envoyer une lumière environ 7 fois plus brillante que la pleine Lune. Reflect Orbital prétend être capable de bien contrôler le faisceau lumineux, mais on parle d'un faisceau qui aura un diamètre d'au moins 5 km sur la Terre. Donc, mettons que tu veux éclairer un petit endroit, tous tes voisins vont être affectés, explique Nathalie Ouellet. Autre préoccupation, à cause de la vitesse à laquelle il tournerait autour de la Terre, chaque miroir de Reflect Orbital ne pourrait illuminer un même point plus de 4 minutes à la fois. Ça veut dire deux choses. Un, il faudrait un grand nombre de satellites pour éclairer un même lieu toute la nuit. Deux, à moins que les miroirs puissent être repliés entre deux cibles, on verra des faisceaux balayer le sol en se déplaçant d'un client à l'autre. Reflect Orbital a-t-elle les moyens de ses ambitions? C'est loin d'être clair. L'entreprise en démarrage est dirigée par Ben Nowak, un gars sans grande expérience, dont le principal fait d'armes est d'avoir effectué un stage chez SpaceX. Mais en mai 2025, son entreprise a récolté 20 millions de dollars américains auprès d'investisseurs à la solide réputation. Parmi eux figurent Sequoia Capital, une légendaire firme de capital de risque de la Silicon Valley, connue pour ses investissements dans des entreprises comme Google, Apple, Cisco et LinkedIn. On espère que leur projet est du théâtre pour obtenir de l'attention et de l'argent pour autre chose. Mais on ne peut pas compter là-dessus, commente Nathalie Ouellet. Effacer la nuit, comme souhaite le faire Reflect Orbital, est-il légal? Ram Jakhu, professeur émérite et directeur émérite de l'Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill, explique que la question est complexe. Selon lui, le projet contrevient clairement à deux articles d'un traité de l'ONU sur l'utilisation de l'espace et ratifié par les États-Unis en 1967. L'article 1 précise que l'exploration et l'utilisation de l'espace doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays. Et selon l'article 9, l'utilisation de l'espace doit se fonder sur des principes de coopération et éviter les effets préjudiciables, ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre. Le problème avec ces principes, dit Ram Jakhu, c'est qu'ils sont rarement respectés et que ce sont les intérêts commerciaux qui priment. Il s'attend à ce que la FCC approuve le lancement du premier miroir de Reflect Orbital. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que je suis d'accord, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, dit-il. J'ajoute qu'avec le contexte politique actuel aux États-Unis, on peut difficilement se fier aux agences fédérales américaines pour protéger le bien commun. Que faire alors? Il me semble que le fatalisme n'est pas une option. La première étape est de s'informer et de discuter de ce qui se trame. Veut-on vraiment vivre dans un monde où même le soleil est à vendre? Si on ne se pose pas ces questions, d'autres le feront à notre place. Ils nous imposeront leurs réponses. C'était « Quand même le soleil est à vendre », un texte de Philippe Mercure, paru le 14 novembre 2025 dans la presse.